Aujourd'hui, entre la légende et la réalité, la véritable histoire du Cid. Généreux héritier d'une illustre famille, soit désormais le Cid. Qu'à ce grand nom tout cède, et qu'il marque à tous ceux qui vivent sous mes lois, et ce que tu me vaux, et ce que je te dois. Corneille. D'histoire. Malgré toute la littérature qu'il a inspirée, peut-être à cause d'elle, 900 ans après sa mort, le Cid reste un illustre inconnu. Corneille, qui l'a rendu célèbre en France, a tellement romancé sa vie qu'on a du mal aujourd'hui à faire la part entre la légende et la réalité de ce personnage qui a incarné comme Roland toutes les vertus de la chevalerie. La fidélité, le courage, la probité, la générosité et un sens de l'honneur qui impressionnait aussi bien le roi de Castille, Ferdinand Ier, que ses ennemis musulmans quand ils occupaient l'Espagne. Parce qu'il avait, dit-on, la réputation d'épargner les adversaires qui tombaient entre ses mains, c'est même l'un d'entre eux qui aurait donné à Rodrigue de Bivar le nom avec lequel il est entré dans l'histoire.
Jurez-vous par serment de ne plus jamais tourner vos armes contre le roi Ferdinand?
Je le jure.
Parmi notre peuple, il existe un mot pour nommer un guerrier assez sage pour être juste, assez fort pour être magnanime. Un tel homme est appelé Cid. Moi, Moutamine, émir de Saragosse, je fais serment d'éternelle amitié au Cid de Bivar, d'allégeance à son souverain, le roi Ferdinand de Castille. Puisse Allah arracher les yeux de ma tête et le cœur de ma poitrine si je manque à ma parole. Au nom du Tout-Puissant Allah.
Marie-France Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez été professeur de langue, d'histoire et de littérature espagnole aux universités de Paris 4 et Paris 8, et vous venez de publier chez Albin Michel un roman, Moi, Chimène, épouse du Cid. Alors, Chimène et Rodrigue, évidemment, on peut difficilement les séparer. Tout le monde croit les connaître, grâce, bien sûr, à Corneille, mais on ignore souvent, au fond, leur véritable histoire. On s'est même demandé s'ils avaient existé. Ils ont bien existé. Et on sait, par exemple, que ce sont, en effet, les musulmans qui ont donné à Rodrigue son nom de Cid.
Oui, tout à fait. C'est le mot Sidi qui signifie « seigneur » et qui a été attribué précisément par les adversaires de Rodrigue à ce héros, parce qu'il l'admirait, en fait. Il le combattait, mais il l'admirait en même temps.
Alors, il s'appelait, en fait, Rodrigue
de Bivar. Diaz de Bivar. Et il était originaire, dont la famille était originaire, de ce village de Bivar, qui est dans la région de Burgos, pas tellement loin de Burgos. Et la famille avait également des maisons à Burgos, d'ailleurs.
Une famille pas aussi illustre que l'écrivait Corneille. C'était une petite aristocratie.
C'était une famille d'Hidalgo, de province, n'est-ce pas? Petite noblesse. Alors, d'où les différends qu'il y aura après entre Rodrigue et les grands nobles qui se trouvaient autour du roi. Les magnats, ce qu'on appelait les magnats, qui voyaient d'un mauvais œil, naturellement, les privilèges accordés par le roi au Cid.
Alors, petite famille de petite noblesse, ce n'est pas du tout le cas de votre héroïne, de votre roman, Marie-France Schmitt, Chimène.
Chimène, c'est une grande famille
castillane.
Elle était de sang royal. Elle était cousine d'Alphonse VI, le roi auquel aura affaire Rodrigue. Elle était cousine et elle descendait donc des rois de Castille et de Léon.
Alors, ce qu'il faut rappeler quand même pour ceux qui nous écoutent, y compris pour moi-même, parce que c'est un peu une histoire compliquée, tout ça, c'est le contexte dans lequel ils ont vécu. Hein. Lui est né ils sont tous les deux nés au début du XIe siècle. C'est une époque où l'Espagne est occupée par les musulmans, mais pas dans sa totalité. Ils y sont arrivés au début du 8e siècle, mais à l'époque de Rodrigue et de Chimène, en fait, le nord et l'est de l'Espagne sont des royaumes chrétiens, Marie-France Schmitt.
Oui, alors, ils sont nés tous les deux, ils sont nés au milieu du 11e siècle, plus exactement, et à ce moment-là, effectivement, la reconquête a quand même fait des progrès, n'est-ce pas ? Et les royaumes chrétiens, tout le nord est occupé par les chrétiens, les Asturies, le Léon, la Castille, et peu à peu, les petits états se transforment en royaumes, et puis l'Aragon également, l'Aragon et la Castille deviennent les plus importants. Et puis, vous avez également le comté de Barcelone, qui se trouve tout à fait à l'est. Donc, on peut dire que le nord-ouest, le nord et le nord-est sont aux mains des chrétiens. Et la frontière, à ce moment-là, arrive à peu près au Douro, au fleuve Douro, qui se trouve donc dans l'actuelle Castille, l'actuelle vieille Castille, si on peut dire.
Donc, au nord, plusieurs royaumes, le plus grand étant la Castille et le Léon, qui ont été rassemblés. Au sud, c'est aussi compliqué, car il y a une quantité, après l'éclatement du grand califat de Cordoue en 1031, il y a une quantité de petits royaumes musulmans qu'on appelle les taïfas, Marie-France Schmitt.
Oui, alors les taïfas, il y a un sens certainement à ce mot, mais ce sont des petits royaumes, n'est-ce pas, qui se font la guerre les uns aux autres, pour ne fût-ce que pour subsister. Mais il y en a quand même qui sont plus importants les uns que les autres. Par exemple, le royaume de Saragosse, le royaume de Séville et le royaume de Grenade sont vraiment les plus importants, par rayonnement, d'ailleurs sur rayonnement culturel et rayonnement politique également, voyez.
Alors il y a une chose qui va jouer un rôle très important dans cette histoire, c'est le fait que ces royaumes musulmans payent souvent, pour beaucoup d'entre eux, un tribut aux rois chrétiens, c'est ce qu'on appelle le système, je crois, des parias, et ces rois chrétiens, ils ne sont pas du tout d'accord, bien entendu, quand ces rois musulmans sont de mauvais payeurs.
Mes hommes livres, pour la première fois depuis des générations, nos vassaux mauresques ont refusé de nous payer tribut. Ils sont poussés à la révolte par les morts d'Afrique. Une expédition doit être entreprise pour exiger le tribut. Cette expédition est le premier devoir qui t'échoit.
Puissais-je m'en montrer digne, sire ?
Rodrigue de Bivar, nous te faisons ici notre champion et le premier chevalier du royaume. Avec cette épée, puisses-tu l'emporter sur tous nos ennemis.
Mordas, ya Habibi, ne me mords pas, mon ami. C'est une chanson du répertoire judéo-espagnol du XIe siècle, dans un pays, celui du Cid et de Chimène, qui effectivement ont coexisté trois religions qui ne faisaient pas que se battre, Marie-France Schmitt.
Non, il y avait beaucoup de contacts culturels et entre l'Espagne chrétienne d'un côté et l'Espagne musulmane, parce que les Juifs évidemment s'intégraient, mais les Juifs ils étaient au service souvent des musulmans. Et ils sont après passés souvent au service des chrétiens aussi. Donc il y avait vraiment une osmose, si vous voulez, entre ces trois religions. Alors les chrétiens se sont beaucoup intéressés à la culture musulmane à cette époque-là. La culture était très très rayonnante, n'est-ce pas ? Elle s'est diffusée. Donc il y avait des livres, il y avait des manuscrits, il y avait des et puis alors des grands philosophes, n'est-ce pas ? Des grands philosophes qui ont été connus par les chrétiens. Et il y avait des chrétiens qui apprenaient l'arabe. D'ailleurs, le Cid a appris l'arabe. l'arabe.
Parlait l'arabe. Ouais.
Et parlait l'arabe. Il est pas forcément, puisqu'il a été, il a été en exil chez les musulmans, donc automatiquement il s'y est mis et Chimène s'y est mis par la suite, évidemment.
Alors ça, c'est à partir du moment où il est connu. En fait, on sait relativement peu de choses de sa jeunesse. Il y a un mot qui a été employé, enfin dans cet extrait de film, qui est relativement fidèle à la réalité. Je dirais de quel film il s'agit tout à l'heure, mais Marie-France Schmitt, c'est le terme de champion. Est-ce que c'est ça qui explique le nom aussi du ou le surnom ou le titre du site? Alors, on disait le site Campeador.
Oui, je vois. Campeador, c'est celui qui triomphe. C'est-à-dire, non, c'est pas le champion. Il a été champion, effectivement, choisi comme champion dans des duels, n'est-ce pas? C'est plus ou moins légendaire d'ailleurs, mais enfin. Et Campeador, c'est celui qui triomphe toujours. Il triomphe toujours de ses ennemis. Il ne se laisse pas abattre. Donc, c'est vraiment le sens de ce mot.
Vous évoquez les duels, Marie-France Schmitt. Est-ce que le Cid a ou non, comme le dit Corneille, tué le père de Chimène?
Bah, écoutez, là, c'est assez. Corneille, en tout cas, a mis cela en valeur. C'est pas a mis cet épisode en valeur pour justement justifier toute ce combat, de cet honneur, cette importance de l'honneur, et puis justifier également le rôle de Chimène, n'est-ce pas? Mais apparemment, oui, mais on ne sait pas très bien les circonstances.
Et elle l'épouse quand même.
Et elle en est amoureuse. Et là, elle en est amoureuse bien avant. Enfin, dans elle l'a remarqué dès son adoubement, n'est-ce pas? Je le dis moi-même. Et à ce moment-là, elle était pourtant presque une enfant, mais elle était déjà, elle avait tenu l'étrier du Cid. Il y a toute cette scène de l'adoubement qui est extrêmement.
C'est au début de votre livre.
Donc où elle est requise pour tout enfant qu'elle est. Elle est très émue de tenir cet étrier du Cid, justement après l'adoubement.
Rodrigue et Chimène, qui se marie et dont le destin va basculer en 1081 quand le nouveau roi de Castille, Alphonse, successeur de Ferdinand Ier, chasse Rodrigue de son royaume.
Par édit de notre très illustre souverain Alphonse, roi de Castille, de Léon et des Asturies, nous faisons connaître que Rodrigue de Bivar a outragé la personne royale et est par ses présents exilé à vie. Il lui est accordé 9 jours à partir de celui-ci pour quitter le royaume, seul et sans homme d'armes. Toutes ses possessions, biens et terres seront confisquées au profit de la couronne. Il est déchu de ses privilèges et tous les vassaux du roi s'abstiendront de lui fournir le vivre et le couvert, de lui prêter assistance et de lui parler. Nul ne pourra lui venir en aide sous peine de subir.
Pourquoi le Cid a-t-il été chassé, banni du royaume de Castille?
Il a été banni parce qu'on l'avait accusé. Je crois que les magnats qui essayaient de le perdre dans l'esprit du roi, toujours cette différence de classe, en racontant qu'il avait pris, comme il avait été envoyé à Séville pour à cause des tribus, qu'il s'était emparé de certains tribus. Enfin, on l'a accusé de prévarication finalement. Et puis aussi il y a eu cette histoire. Je pense que ça se situe à ce moment-là. La frontière n'était pas très sûre. Et alors, il y avait un fief de Gormaz qui était menacé, et il avait pris l'initiative d'une expédition sans en référer au roi. Donc c'était un néologisme, un crime de lèse-majesté, n'est-ce pas? Donc il a été comme s'il voulait prendre déjà son indépendance vis-à-vis du roi
Alphonse, dont on dit aussi qu'il aurait tué son frère Sanche pour devenir roi de Castille et de Léon en même temps, et que le Cid, se doutant que cet Alphonse avait tué son frère pour devenir roi, lui avait imposé un serment dans lequel ce roi devait affirmer qu'il n'avait pas tué son frère, ce qu'on appelle le serment de Sainte Agathe.
De Sainte Agathe. Alors, ce serment, naturellement, il y a beaucoup de versions sur ce serment. Alors, il y a des versions qui disent que le Cid a baisé la main du roi, finalement, à la fin. Ça, c'est la version réelle. Mais on dit que, à un moment donné, il n'a pas voulu baiser la main du roi, n'est-ce pas? Parce qu'il craignait qu'il fût l'instigateur du crime. Du crime dont avait été victime son frère.
En tout cas, ce serment est humiliant.
C'est humiliant, le roi se considère déjà comme humilié. Mais enfin, ça, c'est passé beaucoup dans les littératures.
Alors, il est donc banni de Castille.
Il est banni,
c'est Chimène qui va s'occuper de la gestion de ses biens.
Heureusement, Bannissement, oui, mais pas confiscation des biens la première fois.
Alors là, contrairement à ce qu'on a entendu dans cet extrait de film.
Eh bien oui, alors on est obligé... Alors, comme il n'y a pas confiscation des biens, elle reste, n'est-ce pas, pour gérer les biens. Mais elle est accueillie assez souvent au monastère de Cardenia. Elle vient naturellement à Bivar, surtout au moment de la belle saison, pour aider aux moissons, pour aider... Elle s'occupe vraiment de ses domaines, avec beaucoup d'intérêt. La tonte des brebis, enfin j'en parle un petit peu, les moissons, enfin elle est présente au moment des plus importants des récoltes.
Alors lui est absent, il est parti, à Saragosse, dans le royaume musulman de Saragosse, avec un roi auprès duquel il va se battre. Ça aussi, c'est une chose qui peut surprendre aujourd'hui. Celui qui a incarné la lutte contre l'islam, en fait, s'est battu à plusieurs reprises aux côtés des musulmans. Et ça, c'était assez fréquent dans l'Espagne de l'époque. Et ça montre bien que la reconquête n'a pas été une lutte permanente entre les Espagnols et les musulmans, Marie-France Schmitt.
Non, ça c'est très important parce que les musulmans des Taïfas sont en, si vous voulez, ne s'entendent pas toujours. Alors, les chrétiens interviennent pour lutter, on les appelle au secours pour lutter contre un autre roi mort, et inversement, il y a des ententes entre les maures et les chrétiens, ça, contre un adversaire. Donc c'est très courant ceci. Et puis le Cid, naturellement, comme il était exilé, il fallait bien qu'il aille, qu'il trouve. Ouais. Et l'hospitalité lui a été donnée par un musulman. Il avait pensé d'abord à des chrétiens, mais il n'en était pas sûr. Et il pensait, et donc une hospitalité absolument extraordinaire qu'il a reçue du roi maure de Saragosse.
Alors, ce qui va changer dans l'histoire du Cid et de l'Espagne, c'est que le roi de Castille, qui a exilé le Cid, le roi de Castille s'empare de la ville de Tolède en 1085. Et alors là, les taïfas, les musulmans des taïfas font appel à ce qui va devenir une dynastie régnante en Espagne et qui régnait surtout au Maroc, mais qu'on appellerait aujourd'hui des intégristes musulmans, contrairement aux princes musulmans de Grenade ou de Séville, c'est les Almoravides.
Oui, alors donc c'est vrai. Peut-être pas directement à cause de la conquête de Tolède, mais peut-être un peu avant déjà, il y a les Almoravides sont appelés au secours parce qu'on voit les progrès de la reconquête, n'est-ce pas? C'est pas encore la prise de Tolède, mais la prise de Tolède va être un détonateur, si vous voulez. Et alors, à ce moment-là, les Almoravides, qui veulent absolument en même temps rétablir la foi rigoureuse de l'islam, en profitent, n'est-ce pas, interviennent.
Débarquent
des Taïfas, et alors, ils luttent également contre les Taïfas. Ouais. Donc, les Taïfas sont prises à leur propre piège également, vous voyez. Alors donc c'est vraiment alors il y a des batailles très célèbres, il y a la fameuse bataille de Salaca dont je parle, qui est après Tolède, parce qu'il fallait défendre Tolède. Une fois que Tolède avait été conquise, c'était alors le Cid n'était pas intervenu. Parce que s'il était intervenu, le sort des armes eût été autrement, puisque les musulmans avaient une tactique extraordinaire, c'était la tactique de l'enveloppement. L'encerclement des et alors évidemment le roi a fait une attaque frontale et il a été battu à la fameuse bataille de Salaca, où les chameaux sont intervenus, les chameaux des Almoravides ont fait peur aux chrétiens, aux les tambours, ils ont joué beaucoup sur les chameaux et sur les tambours, les roulements de tambours qui effrayaient absolument les armées chrétiennes.
Alors c'est en 1086, le roi de Castille fait alors appel, il oublie son différend,
oui,
avec
alors
le Cid,
il fait
appelle au Cid et à Rodrigue qui
alors,
va se couvrir de gloire, le Cid, par la prise de Valence en 1094.
La ville est à vous. Saignez la couronne. Proclamez-vous roi. Nous avons toujours combattu pour vous. Nous vous voulons pour souverain.
J'ai conquis Valence. Au nom de mon maître et souverain, Alphonse, roi de Castille, de Léon et des Asturies, de Sagonte et d'Almenara, de Castrejon et d'Alcantara, roi des chrétiens et des maures. Valence appartient à Alphonse, par la grâce de Dieu, roi d'Espagne. Pour Alphonse, pour l'Espagne.
Pour Dieu, pour Alphonse. Alors la prise de Valence en 1094, c'est vraiment à ce moment-là que le Cid
devient un personnage célèbre, grande victoire sur
les Almoravides à Valence, dont il ne se proclame pas le roi, on l'a entendu. Non, il reste fidèle au roi de Castille.
Je pense que oui, c'est ça. Parce que finalement, même pendant son exil, bon, il a fait appel aux morts, bien sûr, mais on sentait qu'il y avait quand même un regret chez lui. Il se sentait encore solidaire, si on peut dire aujourd'hui, comme on dirait aujourd'hui, du roi de Castille. Il ne voulait pas prendre le titre de roi, n'est-ce pas? Et il le dit d'ailleurs, il le dit lorsqu'il accueille les habitants. Alors, il gouverne Valence, il s'intitule, en fait, gouverneur de Valence. Mmh. Presque au nom du roi de Castille.
Avec pas mal de brutalité, hein. Le Cid est présenté toujours par ceux qui ont ensuite écrit sur lui, comme Corneille, comme un personnage généreux, débonnaire, courageux, compatissant, parfois une brute, hein. Il aurait même fait brûler vif un cadi à Valence.
Alors le cadi, le fameux, qui était un traître, n'est-ce pas, il l'a fait lapider, n'est-ce pas, il l'a fait lapider, et la scène de la lapidation était absolument effroyable.
C'était une brute quand même aussi à bien des égards.
Oui, mais c'était les lois de. Il a demandé d'ailleurs aux musulmans qu'est-ce qu'il faut lui appliquer puisque c'est un félon. Ouais. Il a été félon vis-à-vis de vous. Il a fait tuer l'autre roi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ils ont dit c'est la lapidation d'abord. Il y en a certains qui ont dit non, il faut pas le tuer parce qu'il a des enfants jeunes, etc. Puis finalement on a la lapidation qui est un châtiment pratiqué par les musulmans.
Dans ce gouvernement de Valence, d'abord il devient un personnage tellement considérable qu'il parvient à marier ses filles à de grandes familles espagnoles. L'une épouse quelqu'un de la famille royale de Navarre, l'autre le comte de Barcelone.
D'Aragon, il y a un premier mariage de la cadette avec un prince d'Aragon, et puis qui meurt prématurément, et après c'est le fils du...
Des mariages qui ne seront pas très heureux. Voilà. Là-dedans, Chimène a joué un rôle considérable dans le gouvernement de Valence, Marie-France Schmitt. Oui. C'est une véritable femme de pouvoir aussi, vous le démontrez.
C'est une femme de pouvoir, d'autant plus elle n'avait pas d'héritier. Vous savez qu'il y a un fils aussi, Diego, dont on a si peu parlé. Et moi, j'en parle un petit peu. Alors, Diego est mort à une bataille également. Donc, c'était vraiment, elle reportait tout sur ses filles. Et alors, elle a vraiment administré son royaume de Valence. Elle voulait continuer, si vous voulez, la tâche du Cid. Elle lui avait juré pratiquement.
Quand et elle a réussi. C'est après sa mort, après la mort du Cid en 1099.
Oui, après la mort du Cid, et alors elle est restée jusqu'en 1102, et elle est obligée d'appeler au secours le roi de Castille, qui n'a pas voulu, qui a proposé que un de ses Bagdas prenne le titre de roi, mais il n'y a rien eu à faire, personne ne voulait, et alors il a trouvé que finalement, la région de Valence, bon ben il valait mieux qu'il se réserve pour Tolède, et tout l'autre côté, si vous voulez, qui l'intéressait davantage.
Et Valence va retomber entre les mains des musulmans, trois ans après la mort du Cid.
Voilà.
Chimène.
Oui, me voici, Rodri. Je suis près de toi.
Même si mes forces viennent à me manquer, il faut que je sois à leur tête demain.
Oui.
Mort ou vif, il faut qu'on me voie sur mon cheval, à la tête de mes soldats. Promets-le-moi.
Je te le promets, Rodri.
Allah soit loué! Le Cid est mort! On le proclame partout! Le Cid est mort! Je vous affirme que le Cid est vivant! Demain, il livrera bataille! Il combattra avec nous à notre tête!
Pour Dieu! Le Cid! Et l'Espagne!
Pour Dieu! Le Cid! Et l'Espagne!
C'est vrai qu'au fond, le Cid n'est pas vraiment mort, Marie-France Schmitt. De son vivant, déjà, on a beaucoup écrit sur lui. Il devient tout de suite, dès le début, une légende.
Alors, très peu de temps après sa mort, c'est-à-dire au milieu du XIIe siècle, nous avons l'épopée, et ensuite des poèmes. Et ces poèmes sont intéressants parce que dans l'épopée, Chimène n'a pas un grand rôle. Tandis que dans les poèmes qui vont suivre, au 14e, 15e, les romances, qu'on appelait les romances, elle va prendre son importance. Et elle va prendre son importance, d'abord, à la suite de la mort du comte, justement, la légende, la mort du comte, enfin, devient vraiment importante, la mort de son père, et elle va apparaître non seulement comme une amoureuse du Cid, mais en même temps, comme désireuse de venger son père, dès le 14e. Et ensuite, nous avons le théâtre, bien entendu, je passe un peu rapidement, les jeunesses du Cid de Guillaume de Castro qui ont inspiré Corneille, et Corneille, nous allons avoir le conflit entre l'amour et l'honneur, naturellement, qui va être absolument exacerbé, n'est-ce pas, qui va être mis en valeur. Et puis, le Cid n'a pas fini. Après, nous allons avoir aussi à l'époque romantique, nous allons avoir des œuvres. Et puis, au 19e, des opéras, faut pas oublier, et des opéras où Chimène va avoir de l'importance également.
Mais comment expliquer cet intérêt de la littérature, des écrivains, des auteurs de théâtre, des musiciens, pour ces deux personnages qui ont compté évidemment dans l'histoire de l'Espagne, mais enfin, au fond, on ne retient presque que leur nom de l'histoire de l'Espagne.
Non, mais je crois qu'il y a l'idéal chevaleresque pour le Cid, il y a l'idéal chevaleresque qui était très important, les valeurs de la chevalerie, n'est-ce pas, qui était vraiment considérée comme essentielle. Et puis, alors pour Chimène, vous avez cette amoureuse, n'est-ce pas, c'est le symbole de l'amour, du grand amour, d'un amour fidèle, n'est-ce pas, qui ne s'est pas démenti avec les années, avec les épreuves, avec les absences et avec le si vous voulez, à la fois la présence et l'absence du Cid, n'est-ce pas ? Elle est toujours là pour. Je crois que ça, c'est très important.
Vous voulez dire qu'il voulait servir de. Il devait servir de modèle, en quelque sorte ?
Oui, un peu. Je pense qu'il y a cette idée du modèle, de les sentiments, les grandes valeurs comme l'honneur, et puis la chevalerie, c'est pas, qui est très importante, et puis la lutte, l'idéal chrétien, naturellement, la lutte contre les Maures et la Reconquista, qui était très importante en Espagne, et qui est un phénomène historique celui-là, mais qui a été perpétué par les œuvres jusqu'à maintenant, enfin jusqu'au.
C'est peut-être aussi la raison pour laquelle, alors là c'est un parrainage un peu plus embarrassant, Franco a fait de Chimène et de Rodrigue des héros. Il faut rappeler que sa capitale à lui, au début de la guerre d'Espagne, c'était Burgos. Je crois que c'est lui qui a fait édifier des statues équestres de Chimène et de Rodrigue.
Tout à fait, ce sont les statues. Il y a les statues qui sont sur le pont, qui sont très très intéressantes, le pont de Burgos, où vous avez Chimène avec ses grandes tresses, et vous avez le Cid, et vous avez tous les compagnons du Cid, et avec leur épée, avec leur, enfin, dans une attitude vraiment guerrière. Puis alors là, la statue équestre du Cid, qui est tout près, n'est-ce pas, qui est à l'entrée de ce pont pratiquement.
Et tout près du corps de Chimène, enfin des cendres de Chimène et de Rodrigue, qui se trouvent dans la cathédrale de Burgos.
Voilà, alors il a fait transférer, naturellement, ils étaient à Cardenia, au monastère de Cardenia, et restent maintenant les cénotaphes. Nous, on peut encore voir les cénotaphes, et leurs cendres ont été transférées par les soins de Franco à la cathédrale de Burgos.
Et on les retrouve aussi dans votre livre, Marie-France Schmitt, Moi, Chimène, épouse du Cid, un roman publié chez Albin Michel et qui est passionnant sur l'Espagne de l'époque. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Cid d'Anthony Mann avec Sophia Loren, qu'on voit sur la couverture de votre livre d'ailleurs, et Charlton Heston dans le rôle du Cid, disponible en DVD aux éditions Home Video. Et maintenant, la suite de notre jeu concours France Inter Le Figaro. Pour jouer et gagner l'excellente collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro, il faut répondre à la question sur notre sujet du jour. La première représentation du Cid a eu lieu en 1637. La même année, un contemporain français achevait le triomphe de Neptune. De qui s'agit-il ? Réponse 1, Charles Lebrun. Réponse 2, Nicolas Poussin. Réponse 3, Georges de la Tour. Je répète, qui a peint le triomphe de Neptune ? Charles Lebrun, Nicolas Poussin ou Georges de la Tour ? Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sophie Moreno, Ludovic Asselot, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Notre réalisatrice Anne Kobilac.